campagne. Bonjour, quatrième carnet dans le département de la Vienne. Avant de vous donner le détail de cette journée, enfin de cette édition, un détour par la Bourgogne-Franche-Comté qui vient de lancer son 12e concours régional de l'économie sociale et solidaire. Le but est de valoriser des initiatives exemplaires et ou innovantes dans les domaines de l'économie circulaire, de la solidarité et du développement économique local. 18 000 euros de prix seront répartis entre les 5 lauréats finalistes. Le palmarès sera d'ailleurs dévoilé lors des journées de l'économie autrement qui débuteront le 23 novembre à Dijon, événement créé par nos confrères des alternatives économiques. Les dossiers de candidature doivent être déposés sur le site de la région, c'est bourgogne-franche-comté.fr. Date limite de clôture le 15 octobre. Invité de cette édition dans la Vienne, Chantal Bernard, coprésidente de Mine de Rien, une association récemment créée pour permettre l'hébergement de jeunes migrants mineurs isolés. Et puis une création presque aussi récente, la plateforme Comme un panier, un service qui permet de se faire livrer ses courses à domicile. Manon Zano sera à cet effet notre second témoin.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Chantal Bernard, bonjour.
Bonjour.
J'aime beaucoup ce que vous faites.
Moi aussi.
Vous aimez bien ce que vous faites? Oui, vous avez raison.
Non, j'aime bien.
Mais oui, non, mais attendez.
Parce que, voilà, votre émission est vraiment de celles qui font du bien. Mmh. C'est clair. Donc, je suis très fière de passer à Carnet de Campagne.
Ben, merci.
J'ai plein d'amis qui écoutent France Inter à qui je dis un grand bonjour et voilà, gardons l'espoir.
Bon. Préambule honorable et touchant, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'association Mine de Rien que vous avez créée avec d'autres. À Poitiers, pour venir en aide aux mineurs isolés étrangers. Vous êtes vous-même hébergeante.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas?
Je crois que c'est mon éducation chrétienne, entre autres. Mmh. C'est le fait que j'avais une grande maison avec de la place et que j'entendais parler de ces jeunes qui dormaient dehors. Mmh. C'est aussi un peu les nuits debout, parce qu'on s'est un petit peu plus parlé que d'habitude entre populations différentes, jeunes, moins jeunes. Et puis, c'est le fait de constater que deux étudiantes qui observaient les migrations internationales parce qu'elles étaient doctorantes au laboratoire migrataire se disaient « c'est pas possible de les observer comme ça et de faire juste des ateliers et de les laisser partir en sachant qu'ils dorment dehors, qu'ils n'ont pas accès aux soins, qu'on ne les met pas en relation avec des avocats pour avoir un espoir de prouver leur minorité, c'est pas possible. » Donc, elles sont passées à l'action. Et après, nous, les plus âgés, on s'est dit, si elles peuvent le faire, on doit pouvoir le faire aussi.
Ouais. Ce sont des ados de 14 à 18 ans en moyenne?
Oui, la plupart des jeunes dont nous nous occupons à l'heure actuelle ont 16-17 ans, en tout cas sur leur papier.
Oui. Mais comment viennent-ils, pour le terme, échouer dans la Vienne et à Poitiers, entre autres?
C'est un phénomène assez compliqué, cette migration depuis les pays d'Afrique. Donc ceux qui arrivent à Poitiers sont pour la plupart guinéens, camerounais, ivoiriens ou maliens. Et au fil de leur périple, ils rencontrent des gens qui leur disent « va plutôt là-bas » ou « essaye là-bas » ou voilà. Et beaucoup, quand ils ont démarré leur périple, ne savaient pas qu'ils iraient en Europe. En fait, ils allaient chercher une situation meilleure près de chez eux, dans un autre pays, mais près de chez eux.
Ouais. L'Europe devient un lieu non pas d'accueil parce que le terme ne correspond pas encore aux démarches européennes. On va le dire dans certains pays, oui, mais officiellement, non. Alors tout se passe par des associations très souvent comme la vôtre, sauf que, pour être un peu critique, et sans être alarmiste, mais quand même, le nombre de jeunes migrants chez vous a été multiplié par 3 en 2 ans.
Oui. Je pense que c'est faux de dire que tout passe par des associations. On fait ce que l'administration ne fait pas, mais l'administration a progressé quand même. Au début, ils ont dit, parce qu'il y a eu une grosse vague en 2015, ils ont dit, il faut qu'on s'adapte, on ne sait pas faire de gérer autant de jeunes étrangers isolés, on se demande s'il faut les accueillir d'abord en tant que mineurs ou d'abord en tant qu'étrangers. Bon. Et depuis, on voit quand même pas mal de jeunes dont les traumatismes sont traités, qui ont réussi à être scolarisés, ça a un peu progressé. Mmh. Et ça a progressé pas à la mesure du nombre de jeunes qu'il fallait mettre à l'abri, c'est clair.
Alors ça a progressé à l'échelle des départements, entre autres celui de la Vienne, et répond plus positivement que d'autres?
Non, C'est un département où la préfecture est plutôt dure et en ce moment nous essayons d'expliquer à Madame la préfète et de sensibiliser les politiques et la population sur le fait qu'il y a de nombreux jeunes qui ont très envie de travailler, qui sont prêts à prendre les emplois qui ne sont pas pourvus et des entreprises qui cherchent des apprentis en maçonnerie, en cuisine, en maintenance industrielle et qui ont du mal à trouver des apprentis. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de restaurants qui disent « moi, ce jeune-là, je suis prête à l'embaucher ». Le jeune, il a des relations en France, on a fait ce qu'il faut pour ça, et ce qui manque, c'est l'autorisation de travailler.
Mmh. Et le souci, c'est l'âge, déterminer l'âge. Vous dites, ils ont 16-17 ans, ils peuvent avoir plus, et donc être majeurs, et là, ça change complètement leur situation.
C'est ça. C'est-à-dire que la Convention internationale des droits de l'homme qui a été signée par la France dit qu'un mineur qui est éloigné de sa famille doit être protégé. Mais s'il n'est plus mineur, il n'y a plus cette obligation. Donc il y a tout un enjeu à reconstruire l'état civil. Donc c'est ce qu'on a appris à faire petit à petit et c'est à ça que nous servent les dons. C'est à faire venir des papiers complémentaires du pays d'origine du jeune et à faire légaliser ces papiers pour les aider à faire reconnaître leur minorité. À l'heure actuelle, il y a à peu près 38% des jeunes qui se disent mineurs qui ne sont pas reconnus mineurs.
Oui, oui.
Comme les démarches sont très longues, un certain nombre arrivent à leur majorité sans avoir pu bénéficier de cette protection, donc retourner à l'école ou apprendre un métier. Si tant est qu'ils étaient vraiment mineurs, hein, parce que là-dessus, c'est très compliqué quand même d'évaluer la minorité. Hein.
Donc Chantal, je résume, vous avez besoin de dons, évidemment, vous avez besoin de personnes aussi pour reconstruire leur état civil, et puis toujours de particuliers pour accueillir ces jeunes pendant quelques mois à leur domicile. Et puis un rendez-vous, c'est le 8 novembre à 20h30, un concert au profit de l'association à la Maison des Trois Quartiers, à Poitiers, avec Antoine Compagnon en première partie. Et puis What Day est le prix libre le 8 novembre à 20h30. Et le site, alors c'est mdr86.gymdo.com et puis une page Facebook aussi pour l'assoce Mine de Rien. Merci beaucoup Chantal.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Information dernière minute, les associations de solidarité avec les migrants à Poitiers se mobilisent pour éviter l'expulsion d'un squat installé dans un logement de fonction inutilisé où il y a encore une quinzaine de jeunes étrangers à l'intérieur. Une manifestation est prévue à 18h ce soir sur la place du marché de Poitiers. On peut être surpris en traversant la Vienne par l'ombre d'un château fortifié qui recèle une collection d'objets, documents sonores et visuels sur les dernières ethnies minoritaires de notre monde. Le lieu est le point névralgique de recherche et de travail d'un documentariste en quête depuis 40 ans des premiers peuples, il ferait peut-être dire même des derniers premiers peuples, aujourd'hui population réduite à quelques groupes de personnes. Il s'appelle Patrick Bernard, il est le créateur de la fondation Anaco, dont le siège est donc dans ce fameux château de Verrières à Bournant, près de Loudun. Le projet Anaco repose sur l'apport d'associations de solidarité internationale ou locale à des communautés autonomes afin que ces dernières concrétisent par elles-mêmes des programmes de sauvegarde. C'est-à-dire, j'explique, on propose du matériel audiovisuel et on forme ces communautés aux techniques audiovisuelles afin qu'elles se réapproprient leur propre image et qu'elles transmettent cette mémoire ainsi constituée aux générations suivantes. C'est vrai que cette démarche est très originale et c'est dans cette stratégie de sauvegarde des savoirs ancestraux que Patrick Bernard a fondé un mouvement international de solidarité avec les peuples autochtones qui s'appelle ICRA International. Le site c'est ICRA International, I-C-R-A, ICRAinternational.org. Et par ailleurs, chaque été, il organise un festival de documents, Festival Anaco sur ces peuples premiers au château de Verrières, fondation Trait d'Union, anaco.org. Manon Ozano, bonjour.
Bonjour.
Manon, vous avez fondé avec Antonin Linares une plateforme de livraison collaborative que vous avez appelée comme un panier avec l'apostrophe à la place du E de com. Il faut comprendre, c'est un panier commun. Et cela à partir de votre expérience lorsque vous étiez sur le campus de Poitiers.
Oui, exactement. Donc oui, c'est l'idée du panier commun. On s'appuie sur la mutualisation des trajets. On a eu cette idée, en effet, quand on était étudiant à Poitiers. On était sur un campus dans le centre-ville avec beaucoup d'étudiants sans voiture et donc il y avait des difficultés pour faire leurs courses. Et donc il y avait un système D qui s'était créé dans le campus. Et à partir de là, on a eu cette idée. On s'est dit, mais il n'y a pas seulement des étudiants qui ont ce problème-là. Il y a des personnes sans voiture, en difficulté de mobilité, en convalescence. Et l'idée de s'appuyer sur des voisins qui effectuent des trajets, ça nous paraissait une bonne idée, que ce soit au niveau du lien social, mais aussi pour des questions écologiques. Et donc, on a créé une plateforme en disant que l'outil numérique était l'outil le plus adapté pour mettre en relation ces gens de manière simple et sécurisée aussi.
Ouais. Alors, vous présentez plus précisément comme un panier, comme plateforme de livraison collaborative du Drive. C'est-à-dire que les usagers de la plateforme peuvent trouver un voisin qui a les moyens de se déplacer et de prendre les commandes groupées afin de les rapporter à chacun au domicile, moyennant une petite prise en charge des frais de déplacement.
Voilà, tout à fait. Donc l'idée sur la plateforme, c'est d'arriver, de rentrer sa ville, et là tout de suite on a accès à toutes ces annonces de voisins livreurs, comme on les appelle. Parce que même se rendre dans un drive de grande distribution, un drive fermier, pour chercher un panier d'AMAP, il propose de ramener donc le panier d'un voisin au passage. Et en effet, il y a un remboursement des frais de déplacement, donc qui est de 4,80 €. Donc 4 € pour la personne qui livre, le reste étant des frais de fonctionnement de la plateforme, des frais bancaires.
Oui. Il n'y a pas un risque de confusion à proposer aussi bien des produits issus de drives de proximité, drives locaux fermiers, que de drives de grande surface?
Il n'y a pas de risque de confusion, c'est-à-dire que nous, nos utilisateurs, ont des besoins différents. Ils peuvent utiliser la plateforme pour des questions économiques. Et puis, certains le font aussi pour le mieux manger. C'est vrai que on est quand même, nos manières de consommer sont limitées par les moyens de transport à notre disposition.
Absolument.
Et le mieux manger, pour nous, ça a un vrai sens. C'est pour ça que on s'associe de plus en plus à des magasins bio, à des drives fermiers. Mais on veut quand même laisser aux utilisateurs le choix. Vraiment, cette plateforme, elle est faite pour leur faciliter la vie.
Alors, Manon, pour peaufiner le projet que vous aviez en tête avec Antonin, vous avez bénéficié d'un coup de pouce. Alors, on en parle régulièrement de ces accélérateurs de start-up. Alors, c'est celui de Startinov à Poitiers. Vous y êtes entré en mai 2017. Ça correspond, ça ressemble à quoi un accélérateur?
Alors, tous les accélérateurs sont différents. Nous, c'est vrai que c'était super pour nous d'avoir un accélérateur à Poitiers. Donc, ça se passait dans le nouveau tiers-lieu du numérique à Poitiers qui s'appelle Cobalt, avec un coach en résidence qui nous accompagne sur plein de points, que ce soit l'expérience utilisateur, du développement de plateforme, mais aussi bien du juridique, pour répondre à toutes nos interrogations. Et donc, c'est pas juste l'image start-up, il y a une table de ping-pong, on joue de temps en temps, c'est très sympa, l'ambiance est très bonne, mais on travaille et surtout on va vraiment au contact des gens pour comprendre leurs vraies difficultés et créer un service vraiment utile.
Alors, démarrage pour comme un panier était à Poitiers, puis à Rennes, et là, vous continuez à vous développer.
C'est vrai qu'on a commencé à Poitiers, ensuite on s'est développé autour. Alors Niort, La Rochelle, Angoulême, Périgueux, on est descendu plus au sud en Nouvelle-Aquitaine et on est développé aussi à Blois et Rennes. Alors on n'est pas juste dans la ville et c'est ça qui est important pour nous, c'est qu'on est donc dans ces villes de taille moyenne ou grandes villes, mais surtout dans la zone périurbaine et les communes rurales aux alentours. Mmh. C'est vraiment ce qui nous différencie, c'est qu'on peut apporter un service de livraison à des personnes qui sont dans des zones dans lesquelles il n'en existe pas.
Parfait. Comme un panier, ça s'appelle commeunpanier.com et comme un panier pour la page Facebook, vous aurez les liens avec les réseaux sociaux et avec le site de cette plateforme avec Manon. Merci Manon.
Merci à vous.
Fin octobre, et début novembre, les carnets, comme le jeu, seront dans le Lot, dans Corrèze, ensuite dans l'Allier, et puis enfin en Saône-et-Loire. Voilà pour les nouveaux candidats.